Le journal, Xavier Demany, bonjour.
Bonjour, la ville de Nice veut tourner la page. Premier feu d'artifice tiré pour la fête nationale ce soir depuis l'attentat qui a frappé la promenade des Anglais il y a 3 ans. Mais les victimes ne sont pas encore prêtes, nous dira l'une d'entre elles. 14 juillet compliqué pour la majorité, chamboulée par l'affaire de Rugy. Soutien embarrassé pour l'instant au gouvernement. À Mont-de-Marsan, l'enquête progresse dans le meurtre de Johanna Blanes, retrouvée morte dans un tunnel piéton. Un homme va être mis en examen. Dans ce journal, également un point sur les routes chargées en ce jour de départ de vacances. Une autre route, celle du Tour de France. 8e étape aujourd'hui entre Mâcon et Saint-Etienne. Et puis nous irons à Wimbledon où Serena Williams, 37 ans, est à une petite marche d'un exploit. La météo de cet après-midi, des températures en baisse au nord, un temps estival et de la chaleur au sud. Tout le détail avec Jean-Michel Golinski dans un quart d'heure. C'est la première fois depuis 3 ans, un feu d'artifice sera tiré ce soir à Nice pour la fête nationale. 3 ans après ce traumatisme du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais lorsqu'un camion fou a renversé et tué 86 personnes. Une renaissance pour la ville, c'est le thème du spectacle ce soir, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour les victimes. Franck Mismack, par exemple, ce Cannois co-préside une association de victimes, il a perdu ce soir-là un frère, sa belle-sœur et 2 de ses neveux. Il n'ira pas ce soir au feu d'artifice.
C'est triste à dire, mais nous sommes obligés de quitter la France pour le 14 juillet. Depuis l'an dernier, nous partons en Italie et nous sommes très contents d'avoir l'Italie à 60 km de chez nous. Le bruit, les feux d'artifice, le défilé, tout ça, si vous voulez, pour nous n'a plus de sens et en plus, nous fait mal. Puis les effets de foule, la plupart des gens sont agoraphobes à cause de ce qui s'est passé. Ils développent des névroses pathologiques vraiment importantes. Et nous sommes ravis d'entendre que la ville de Nice est en pleine renaissance. C'est beaucoup plus compliqué pour les familles endeuillées. À chacun de choisir le moment opportun de retourner sur le lieu du drame. Mais c'est certainement pas le 14 juillet qui est le meilleur moment pour le faire. Le seul moyen d'y échapper, c'est de quitter la France, puisqu'en fait, il y a des feux d'artifice dans toute la France.
Franck Mismack, co-président de l'association Promenade des Anglais, au téléphone de Simon Cardona. Demain, dans le ciel niçois, s'illuminera 86 faisceaux lumineux en hommage aux 86 victimes de l'attentat. Le procès de l'attentat de Nice, lui, et c'est-à-dire sur franceinter.fr, pourrait d'ailleurs ne pas être un procès pour terrorisme. L'auteur de l'attaque ayant été tué, les charges pesant sur les autres mises en examen étant très faibles. Bref, il pourrait ouvrir devant un tribunal correctionnel et non devant une cour d'assises spéciale. Les explications détaillées sur notre site internet. À Nice comme à Paris, le 14 juillet se déroulera sous haute sécurité. Manifestation de gilets jaunes annoncée aujourd'hui et demain, feux d'artifice et concerts au pied de la Tour Eiffel et aussi la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue demain soir, Algérie-Nigeria. Des milliers de policiers et gendarmes sont mobilisés. Certains quartiers de la capitale seront bouclés. Les autorités ne veulent pas revivre les débordements de jeudi après la qualification algérienne. Avant le discours aux armées d'Emmanuel Macron ce soir, avant le défilé militaire demain, l'heure est toujours au déminage dans la majorité. Déminage de l'affaire de Rugy, les supposées dépenses excessives de l'actuel ministre de l'écologie, ancien président de l'Assemblée nationale, révélé ces derniers jours par Mediapart. Ce matin, chez nos confrères de France Info, le secrétaire d'État Olivier Dussopt soutient, mais marche sur des œufs.
Le gouvernement est toujours solidaire de manière générale. Dans cette affaire, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a des vérifications qui sont en cours, et à ce stade, il n'y a rien qui entre dans le champ de la légalité, il n'y a pas d'enquête ou d'information judiciaire ouverte. Je ne suis ni procureur, ni enquêteur, et je ne suis pas non plus chef du gouvernement. Je reçois des messages de ma circonscription, d'amis, que certaines images peuvent choquer, peuvent interroger, surtout dans une période après laquelle, et depuis des années, on demande beaucoup d'efforts aux Français. Lorsqu'on est membre du gouvernement, on est astreint à une double obligation de transparence et d'exemplarité. Je dis qu'il y a une règle de séparation des pouvoirs et que le gouvernement n'a pas à dire à l'Assemblée comment s'organiser. Je pense que cet épisode, ce que nous vivons depuis quelques heures, va très certainement amener à changer les choses en la matière. J'imagine qu'il y aura une réflexion autour et que c'est assez logique.
Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics avec Matteo Maestrachi. Un nouveau rassemblement des Gilets Noirs en ce moment devant le commissariat du 5e arrondissement de Paris. Soutien du collectif La Chapelle Debout à la vingtaine de sans-papiers placés en rétention administrative après s'être introduits au Panthéon. Ils réclamaient leur régularisation et un rendez-vous avec le Premier ministre. Une autre personne est en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'enquête progresse sur le meurtre d'une jeune femme dans les Landes, Johanna Blanes, 24 ans, dont le corps a été retrouvé dimanche dans un tunnel piéton à Mont-de-Marsan. Bonjour Fanette Hourt.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Parmi les quatre personnes arrêtées en fin de semaine, il n'y a donc plus qu'un seul suspect dans cette affaire.
Oui, un homme de 32 ans, un Syrien qui est réfugié en France. Une information judiciaire est donc ouverte et cet homme va être mis en examen dans la journée pour meurtre précédé d'un viol. Alors pourquoi lui ? Eh bien déjà parce que son ADN a été retrouvé sur le corps de la jeune femme, mais aussi sur la scène du crime. Et puis parce qu'il y avait aussi chez lui plusieurs affaires de Johanna Blanes, notamment son téléphone portable. Et c'est donc le seul suspect pour l'instant. Il y avait bien trois autres hommes qui étaient en garde à vue, vous le disiez, trois hommes qui vivaient dans le même logement que le principal suspect, mais ils sont tous les trois relâchés, aucune charge n'est retenue contre eux. En revanche, ils sont tous les trois étrangers et sans papier, ils seront donc bientôt expulsés. Mais toute cette affaire n'est pas finie pour autant, il pourrait encore y avoir d'autres arrestations. Comme le procureur de Mont-de-Marsan le précise, l'enquête ne fait que commencer.
Fanette Hourt depuis Mont-de-Marsan, France Bleu, Gascogne, merci. 13 juillet aujourd'hui, peut-être une chaude et longue journée de route vers les vacances. Pour vous qui nous écoutez, prévoyez les bouteilles d'eau dans la voiture. Alors allons faire un point sur les conditions de circulation au PC Mobilité de Radio France. Bonjour Mélanie Juvet.
Bonjour.
Des ralentissements dans le sud.
Oui, sur l'autoroute A7 notamment, trafic dense depuis Lyon pour rejoindre Orange. 3h30 au lieu d'1h30 pour parcourir ce secteur. Et un accident complique la situation au niveau de l'aire de service Roussillon avant l'échangeur d'Aubervrive. Là, vous rencontrez plusieurs kilomètres de bouchons en amont depuis l'Écrosse pendant presque une heure. Du côté de l'A10, c'est chargé notamment aux entrées d'Orléans, puis de Poitiers et de Bordeaux pour descendre dans le sud. Chargé également à partir de Bordeaux sur l'A660 en direction du Pays Basque. Et si vous êtes déjà sur l'A63 dans les Pyrénées-Atlantiques, sachez que le préfet a déclenché le dispositif d'information et de recommandation face à un pic de pollution aux particules. Concrètement, il est recommandé de diminuer sa vitesse dans ce département de 20 km/h par rapport aux vitesses maximales autorisées. Prudence et patience donc sur la route des vacances. Pensez à vous hydrater notamment et à faire une pause toutes les deux heures.
Mélanie Juvet, au PC Mobilité de Radio France. Alerte sanitaire dans le Gers après plusieurs intoxications liées à la salmonelle. Une quinzaine d'anciens combattants réunis pour le repas de leur association la semaine dernière viennent de passer plusieurs jours à l'hôpital. Pour certains, c'est de la copa achetée dans un supermarché près d'Auch qui serait notamment la cause de ces intoxications, Nina Valette.
Oui, cette charcuterie italienne de la marque Di Vittorio a été servie lors d'un repas entre adhérents de la FNACA samedi dernier. Quelques heures après les festivités, une quinzaine d'invités ont donc été pris de vomissements, de diarrhées, de maux de tête et de tournis. Roger Fabre, le président de l'association gersoise, a même conduit sa femme à l'hôpital d'Auch où elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Du côté de l'enseigne Intermarché, dès les premiers coups de téléphone de consommateurs inquiets, la direction a pris les devants en contactant Santé Publique France et la Direction Générale de l'Alimentation. Les lots de Copa de la marque Di Vittorio sont très vite montrés du doigt et retirés des rayons en début de semaine. Des lots de charcuterie présents en magasin depuis le 17 mai et ce dans toute la France, notamment en Mayenne, où d'autres cas ont été révélés. Les autorités demandent donc aux clients de cette enseigne d'être très vigilants.
France Inter, 13h09, la Louisiane se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale Barry. Les évacuations se poursuivent sur les côtes et les habitants sont calfeutrés. Barry pourrait se transformer en ouragan dans les prochaines heures. En dépit des avertissements américains, la Russie vient de livrer des missiles anti-aériens à la Turquie. La livraison est arrivée ce matin par avion à Washington. Le Congrès américain réclame des sanctions. Pendant que les écoliers français sont en vacances en Hongrie, la droite nationaliste du Premier ministre Viktor Orban profite de l'été pour limiter la liberté de l'enseignement. Une loi votée hier interdit désormais aux parents des enfants hongrois de faire l'école à la maison. C'était ce qui permettait pourtant de rester à distance pour des centaines de familles, de rester éloignées de l'idéologie jugée trop conservatrice du pouvoir par certains. Florence Labruyère.
La même école pour tous, c'est l'objectif du gouvernement de Viktor Orban. Mais pour de nombreux parents d'élèves, c'est une atteinte à la liberté de l'enseignement. Depuis la chute du communisme, les parents pouvaient choisir une école ou une méthode d'enseignement. Ils pouvaient décider que leur enfant étudie à la maison, seul ou avec d'autres élèves. Ces dernières années, des centaines de familles hongroises ont d'ailleurs opté pour l'école à la maison. Elles ont préféré retirer leurs enfants de l'école publique. Cette dernière est trop influencée à leur goût par l'idéologie conservatrice de la droite au pouvoir. C'est cette liberté qui est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Selon la loi votée hier par le parti de Viktor Orban, c'est l'État, et non plus les parents, qui décidera si un enfant étudie à la maison. La loi cible aussi les établissements alternatifs, comme l'école Waldorf. Ces écoles devront reprendre au moins 70% du programme scolaire dans leur pédagogie. La loi entre en vigueur dès le 1er septembre prochain. De nombreuses écoles familiales sont dans l'incertitude. Elles ne savent pas si elles pourront reprendre leurs activités à la rentrée. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
Prenons maintenant la route du Tour. Bonjour à vous, Fanny Lechevestrier.
Bonjour.
Huitième étape du Tour de France partie il y a une bonne demi-heure de Mâcon en Saône-et-Loire. Parcours accidenté, 3000 mètres de dénivelé jusqu'à Saint-Étienne. Fanny, ça va faire mal aux jambes.
Oui, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'étape de la planche des belles filles, hein, comme grosse difficulté de la semaine, mais je peux vous dire que celle-ci, après une semaine de course, eh bien, va également faire très mal aux jambes. Là, on est dans des magnifiques paysages, hein. C'est vrai qu'on s'arrête très bien, on est au cœur des vignes du Beaujolais, le Saint-Amour, on voit, on a également le Brouilly, mais non, il faut rouler, les coureurs sont partis jusqu'à Saint-Étienne, et on attend peut-être encore un nouvel exploit de Julien Alaphilippe. On le rappelle, il est à 6 secondes du maillot jaune de l'Italien Giulio Ciccone. Il rêve de le reprendre ce soir à Saint-Étienne. Cela nous promet en tout cas de belles attaques, on l'espère.
Merci beaucoup Fanny, avec Jean-André Giannichini à la technique. Fanny Lechevestrier sur la moto Radio France, arrivée prévue autour de 17h30. Ne buvez pas trop, surtout l'Italien Ciccone a surtout le pour l'instant toujours le maillot jaune sur les épaules et Alaphilippe n'est pas loin derrière lui. Elle est en passe de réaliser un exploit. Serena Williams peut cet après-midi égaler le record de 24 victoires en Grand Chelem depuis le tournoi de Wimbledon près de Londres. Bonjour Jean-Pierre Blimaud.
Bonjour.
Serena Williams affronte à 15h Simona Halep et l'inoxydable joueuse américaine semble résister au temps.
Oui, alors Serena Williams ne détient pas le record de longévité. Hein. Sa sœur aînée, par exemple, Vénus, qui a un an de plus, est professionnelle depuis 25 ans déjà. Mais la cadette n'est pas en reste. Hein. Apparue en 95 sur le circuit, un an après sa sœur. Elle croise assez rapidement d'ailleurs la route de plusieurs Françaises. En 97, elle joue à Indian Wells, par exemple, contre Alexia Dechaume. Deux ans plus tard, elle croise la route de Nathalie Tauziat, Nathalie Dechy, Amélie Mauresmo. Ses adversaires étrangères sont Monica Seles, Arantxa Sanchez, Martina Hingis, des noms qui évoquent depuis longtemps le passé du tennis. C'est la comparaison avec les joueuses de sa génération qui est la plus saisissante. On prend l'exemple d'Elena Dementieva, une Russe qui est née en 81 comme elle, qui est raccrochée en 2010. Anna Kournikova, l'étoile filante, que dire, qui n'a plus joué en Grand Chelem depuis 2003. Née deux ans plus tôt, hein, Amélie Mauresmo a raccroché il y a 10 ans déjà. Et comme nous sommes à Wimbledon, impossible de ne pas évoquer Marion Bartoli. Elle n'a que 3 ans de moins que Serena, mais elle a déjà raccroché en 2013 avant de tenter un comeback impossible. Alors coïncidence ou pas, demain on retrouvera le même cas de longévité. Roger Federer, qui sera en finale des hommes, est né en 81. Un millésime décidément favorable pour les légendes du tennis.
D'ici là, rendez-vous 15h. Merci Jean-Pierre Blimaud. Serena Williams, sacré palmarès, l'américaine face à la roumaine Simona Halep à Wimbledon. Un Français de 20 ans décroche une médaille d'argent au championnat du monde de natation en Corée du Sud. Logan Fontaine a fini deuxième du 5 km. Pour finir, honneur au génie Offenbach. Le festival de Radio France Occitanie à Montpellier célèbre le bicentenaire de sa naissance. Pomme d'Api, œuvre méconnue, revisitée en version concert et qui concentre tout le talent du compositeur Stéphane Capron.
Le musicologue Jean-Christophe Keck est intarissable sur Offenbach. Il en a édité les œuvres complètes. Il aime faire vivre le patrimoine du compositeur comme cette opérette créée en 1873 au Théâtre de la Renaissance à Paris pour une chanteuse qu'Offenbach avait entendue dans un café-concert.
Étrangement, c'est vers la fin de sa vie qu'il l'a écrit. Alors toutes les opérettes en un acte, il les écrit plutôt dans son début de carrière puisqu'il n'a pas le choix, il ne peut faire que ça. Et là, de temps en temps, il reprend des petites pièces en un acte pour faire des levées de rideaux. Vous savez, Offenbach a écrit 650 partitions, 150 quelques ouvrages lyriques, à peu près une cinquantaine de pièces en un acte comme celle-ci. Donc on connaît très très peu de choses. On donne toujours la Belle Hélène, la Péricole, mais toutes ces pièces-là mériteraient d'être données, et beaucoup, beaucoup.
La jeune soprano Hélène Carpentier s'est prise de passion pour le répertoire d'Offenbach.
C'est aussi notre mission de perpétuer cette tradition et justement de continuer à transmettre ce répertoire qui est vraiment important pour nous Français et je pense qu'en tant que jeune chanteuse, ça fait aussi partie de mes envies de vouloir continuer à transmettre ces traditions.
Dans un festival de Radio France à Montpellier dont la thématique cette année est axée sur les musiques du nord de l'Europe, Pomme d'Api est une petite bulle d'air frais à croquer sans modération.
Pomme d'Api d'Offenbach, c'est encore ce soir en concert à Fourques dans le Gard.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Et deux ambiances en France cet après-midi, Jean-Michel Golinski.
Un ciel plus nébuleux qu'ailleurs et des températures plus basses des frontières du nord au nord-est, entre une vingtaine de degrés prévus dans le nord, 24 à 25 près de l'Allemagne, sur la Champagne et la Franche-Comté, avec un faible risque d'ondées cet après-midi sur le relief et un vent de secteur nord assez désagréable dans l'ensemble. Plus au sud et à l'ouest, l'ambiance sera estivale avec 27 degrés cet après-midi à Paris et à Rennes, 28 à 30 sur l'Auvergne en Rhône-Alpes et des Charentes au centre Val-de-Loire, 33 près de la Garonne, 33 à 36 sur le bassin méditerranéen, mais avec du vent vers 80 km à l'heure pour le Mistral et les rafales d'ouest sur la Corse. Demain, le vent du nord va gagner la plupart des régions. Conséquence, les températures vont légèrement fléchir avec un faible risque d'orage sur les Pyrénées et près des frontières de l'Est. Et finalement, toujours pas mal de soleil ailleurs, sauf sur les Hauts-de-France, où, comme aujourd'hui, l'ambiance sera plus terne.